Français, ne soyons plus esclaves. Sous le drapeau, rallions-nous. Sous nos pas, brisons les entraves. 89, réveillez-vous.
89, réveillez-vous.
Frappons du dernier anathème ceux qui, par un stupide orgueil, ont ouvert le sombre cercueil de nos frères morts sans emblème.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Peuple debout, que la victoire guide aux combattants fiers guerriers. Rends à la France ses lauriers, son rang et son antique gloire.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Marchons,
marchons, marchons, marchons.
Exaltez plus vos lois nouvelles, le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens.
Assez de mots vides de sens.
Français, la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits que puisse enregistrer l'histoire.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Marchons,
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 marchons, s'en sauvera. Le peuple aura du pain.
Peuple, que l'honneur ton guide, que la justice soit tes lois, que l'ouvrier ne soit plus avide du manteau qui couvrait nos rois,
du manteau qui couvrait nos rois,
que du sein de la nuit profonde roule enchaîné la royauté. Le flambeau de la liberté s'élève et brille dans le monde.
Chantons la liberté, défendons la cité.
Marchons,
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 marchons, s'en sauvera. Le peuple aura du pain.
Canal Sud 92.2, bonjour. C'est bien contre histoire. Alors, on va commencer par étudier la première déclaration dite des droits de l'homme de 1789, et puis on va voir ce qu'elle est devenue. Alors, notre ami Silvio va attaquer cette déclaration de 89, et puis je vais lui faire des misères.
Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Qu'est-ce que t'as dit là ? En 1789, les femmes n'existaient pas ?
Article 2. Le but
Mais non ! Elles existaient ou elles n'existaient pas ? Parce que moi, je préfère l'article d'Olympe de Gouges. En 91 seulement. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ah bon ? Alors la femme, elle n'a pas de droits naturels ?
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Moi, je préfère tout de même la version Olympe de Gouges. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer une autorité qui n'en émane expressément. Olympe dit bien la réunion et pas l'union. Les femmes sont la moitié du ciel, mais l'union de la femme et de l'homme n'est pas une obligation.
Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Et toujours pas de traces de femme ? À moi, Olympe ! Elle nous dit ce qui limite la liberté de la femme. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.
Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Moins. J'aime bien aussi la version Olympe. Les lois de la nature et de la raison défendent toutes les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Oui, ben tu rajoutes citoyenne, et je suis d'accord.
Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans le cas déterminé par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance.
Et Olympe complète. Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
Est légalement appliquée aux femmes, ajoute Olympe, c'est-à-dire pour les femmes comme pour les hommes.
Article 9. Tout homme étant présumé innocent, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Très bien. Et Olympe ajoute quelque chose d'autre. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Ce qui veut dire, messieurs, que c'est pas la peine de nous traiter en sous-êtres humains, de pauvres faibles femmes, et de nous épargner parce que nous sommes des femmes. Au contraire, c'est une question de dignité, d'être traité à égalité par la loi et sanctionné de la même façon, éventuellement.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Alors on a le droit d'avoir des opinions et de les manifester? En voilà une chose intéressante. Voilà ce que précise Olympe. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir aussi celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Certes. Mais alors là, il me semble qu'il y a un petit détail assez important que le législateur, homme, a oublié et qu'Olympe a précisé. Écoutons-la. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On dirait vive les tests ADN hein, au 21e siècle.
Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
C'est parfait de prévoir d'apporter la force publique pour défendre le droit. Mais ce sont souvent les droits des femmes qui sont bafoués. Alors ça serait intéressant qu'elles puissent aussi avoir recours à la force publique. Et aussi logique qu'on lui empêche, comme à l'homme, d'en faire des abus de pouvoir. Comme dit Olympe, la garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée.
Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
De la même façon, la femme paie ses impôts. Mais peut-être faudrait-il qu'elle bénéficie de ce qu'on fait avec, non? Écoutons Olympe. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.
Article 14. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes et, ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
D'accord, d'accord. Ajoutons citoyennes comme le fait Olympe. Les citoyennes et les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt.
Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Les femmes aussi, a dit Olympe. La masse des femmes coalisées pour la contribution à celle des hommes a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
D'accord. Mais peut mieux faire. Et la constitution, qui c'est qui la vote ? Je préfère cette précision. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Pas mal, mais mieux vaut être précis. Les propriétés sont à tous les sexes réunies ou séparées. Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. On voit donc que cette déclaration de 1789 était loin d'être parfaite. Et les rectifications qu'a apportées Olympe de Gouges, tous les parlementaires étaient au courant, mais quand ils ont revu cette déclaration de 89, ils n'ont pas ajouté les modifications d'Olympe. La déclaration de 93, les déclarations qui ont suivi, parlaient toujours de l'homme et jamais de la femme. Jusqu'à la déclaration universelle de 1948. Après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Et là, je me demande, avec ces beaux principes, ce que devient le délit de faciès et l'islamophobie, qui sont des réalités.
Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Ah oui ? Et en prison, est-ce qu'on a droit à la sûreté de sa personne ? Et les femmes, est-ce qu'elles ont vraiment toujours droit à la sûreté de leur personne ? Quand elles ont un compagnon qui s'en fiche éperdument ? Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et l'esclavage domestique ?
Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Et dans certains commissariats, qu'est-ce qu'il en est de la torture ? Et des traitements dégradants, ça n'existe pas ? Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, c'est-à-dire le droit de se défendre. Alors, se défendre, c'est porter plainte quand on nous fait du mal. Alors pourquoi dans ce cas-là, tant de plaintes ne sont pas enregistrées dans les commissariats ? Pourquoi est-ce qu'on transforme ça en main courante qui ne sert à rien ? Ou pourquoi est-ce qu'on met dehors carrément les gens qui présentent peut-être des délits de faciès ou peut-être parce que les femmes, on n'a pas l'habitude de les écouter.
Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
contre toute provocation à une telle discrimination, n'est-ce pas, monsieur Hortefeux ? Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution et par la loi, y compris viol et violence conjugale.
Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue, équitablement et publiquement, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et l'intimidation des juges, ça n'existe pas ? On va demander à Madame Eva Joly de quoi il retourne.
Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été largement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constitueraient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Oui, le tribunal doit siéger de façon publique, mais les huis clos, ça existe, et je crois qu'on en fait souvent abus. Article 12, nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Et moi, je me demande souvent devant mon écran d'ordinateur, quand je vois des publicités qui correspondent étrangement et tout à fait par hasard au domaine que j'ai consulté récemment sur Internet, je me demande si ces droits, malgré la CNIL, sont bien respectés. Hein. Je crois que Big Brother, c'est pas une vue de l'esprit.
Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Où ça ? Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité.
Article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Alors, la Déclaration universelle stipule bien l'homme et la femme, et pas forcément l'homme avec la femme. Nuance.
Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
N'est-ce pas, monsieur Manuel Valls ? Que pensez-vous du cas d'Aurore Martin ? Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Alors resterait à définir très précisément ce que c'est qu'une association pacifique.
Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret, ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Oui, mais moi je connais plein de gens qui n'ont pas la nationalité française et qui sont employés dans la fonction publique à titre d'intérimaire, à titre d'auxiliaire, ce qui est un moyen de les payer à moitié tarif ou même à moins que ça. C'est le cas en particulier de très nombreux médecins étrangers qui sont payés dans des conditions ridicules, honteuses, et sans la participation desquelles notre sécurité sociale et notre nation, tout simplement, seraient dans de beaux draps. Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Alors là, j'ai un petit problème d'interprétation. Là, je crois qu'on peut en faire tout ce qu'on veut de cet article-là. Il m'inquiète beaucoup.
Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tout autre moyen de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder, avec d'autres, des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Toute personne, tu as dit ? Alors, et les migrants aussi ? Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme. Tiens, encore de l'homme, hein. La femme, on ne sait pas. Et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Alors là, j'espère que les législateurs sont en train de se creuser la tête à cause des problèmes que peut poser la procréation médicalement assistée, hein, et ses suites. Hein.
Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Oui, c'est ce qu'on appelle un vœu pieux.
Article 29. L'individu a des droits envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui, et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies.
Oui, eh bien, moi je me demande si cet article s'applique au mouvement néo-nazi en Hollande, en Autriche, en Suède et en Allemagne aussi. Et l'article 30 nous dit « Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un gouvernement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. »
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Alors, on peut se demander maintenant, quels sont les pays co-signataires de la Déclaration universelle des droits humains? Eh bien, les diplomates répondent. Ils étaient 58 au départ. Comme l'Organisation des Nations Unies a été fondée dans l'esprit de la Déclaration universelle, ils le sont à peu près tous signataires de cette déclaration. Mais, à des degrés divers. L'ONU est une organisation pragmatique qui fait la différence entre ce qu'il est possible et ce qui ne l'est pas encore. Elle voit à très long terme, elle sait qu'elle passera par des moments difficiles, voire des moments de recul, mais elle garde et regarde le cap. Ça, c'est la réponse des diplomates. Alors, sur presque 200 États indépendants de la planète, tous n'ont pas signé. Et puis en plus, il y a des tas de textes complémentaires à la Déclaration universelle qui morcellent singulièrement l'engagement des signataires. Parce qu'on peut signer la Déclaration de 48 et puis refuser de signer les annexes. Alors les annexes, il y en a eu en 65, en 66, en 79, en 84 et en 89, et il y en aura encore. Et sur les quasiment 200 pays indépendants, eh ben, tout le monde n'a pas signé. Alors par exemple, en 1965, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Eh bien, il y a 155 pays qui ont signé, pas plus. Aujourd'hui, hein. En 1966, 141 pays seulement ont signé le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire droit au travail, etc. etc. En 66 toujours, pacte international relatif aux droits civiques et politiques, droits de vote, etc. De créer des partis et tout. 143 pays ont signé. En 1979, 164 pays ont signé la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Oui, mais 164, hein, sur quasiment 200. En 1984, 118 pays seulement ont signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 118, c'est-à-dire la majorité des pays, d'accord, mais tout juste. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore 80 pays qui n'ont pas signé cette convention sur la torture et les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et oui. En 1989, 190 pays ont signé la Convention relative aux droits de l'enfant. Quand même. Alors, le problème de tous ces textes et des signatures éventuelles, c'est qu'il s'agit de conventions, de pactes, de chartes des droits humains, mais pas de traités. Ces textes, même signés, ne sont pas obligatoires. Et en plus, quand un gouvernement signe un de ces textes, ben un gouvernement, ça ne dure pas autant que les impôts. Alors, le gouvernement suivant, il dit « moi, j'ai jamais signé ça ». Et voilà. Et puis, il y a d'autres textes qui ont des titres assez, assez inquiétant. Par exemple, on parle de protocole facultatif. Alors, il existe un protocole facultatif se rapportant au pacte sur l'économie, protocole social sur les droits de la culture. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors, il y a autre chose encore, pire. C'est que ces documents que les Nations Unies présentent au gouvernement candidat à la signature, ces documents sont enregistrés aux Nations Unies de façon extrêmement scrupuleuse, et j'ai trouvé sur Internet, tout le monde peut les trouver, j'ai trouvé, vous cherchez Nations Unies, droits de l'homme, et vous allez tomber dessus. Alors j'ai trouvé des tableaux, c'est rédigé en anglais mais c'est quand même très clair, des tableaux où vous avez le texte, le numéro de l'article, et puis, il y a la colonne qui indique à quel moment tel pays a demandé la documentation. La colonne suivante, à quel moment la documentation est parvenue au pays en question. Et la troisième colonne, la date de la signature. Alors, en regardant, en examinant ces tableaux, j'ai eu un choc. Parce que je regarde donc les pays signataires et ben, ça commence dans l'ordre alphabétique, hein, et ça se continue aussi dans l'ordre alphabétique, et je vois Burkina Faso. Alors les auditeurs de Canal ont suivi les émissions sur le Burkina Faso et sur la personnalité formidable de Thomas Sankara. On a travaillé tous ensemble passionnément tout le mois d'octobre sur la question. Alors, qu'en est-il du Burkina Faso? Alors, le Burkina Faso a demandé les documents sur la Déclaration universelle des droits humains en septembre 1987. Les documents sont parvenus, par les diplomates, enfin, les documents sont parvenus au gouvernement le 14 octobre 1987. Et dans la colonne signature, il n'y a rien. Mais nous, on sait que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné. Et depuis, Blaise Compaoré, qui s'est emparé du pouvoir dans ces circonstances, Compaoré n'a toujours pas signé. Alors, on se demande ce que vaut la Déclaration universelle des droits de l'homme, on se pose la question.
Qui sont ces hommes, ces comédiens qui veulent la peau de mon citoyen, fièrement acquis par notre histoire, par nos défaites et nos victoires? J'ai honte. Pour faire valser le cœur de la reine, il faut bien sûr charmer la reine, mais tous jureront de leurs mensonges, de leurs promesses, de leurs jurons. Comme ils sont beaux ces prétendants, quand ils s'engagent si sobrement, dans leurs costumes fraîchement taillés, quel simulacre cette vérité. J'ai honte. Le geste souverain, la main de fer, mais au fond d'eux ne savent que faire, de ces gens-là qui désespèrent, qui placent leurs rêves six pieds sous terre. Quant aux affaires, je vous laisse seul juge, il y a des peines qu'il faut qu'on purge. À la santé de la République, il y a ces hommes qui se font du fric. J'ai honte. Puis on est effacer, on recommence les mêmes arnaques, les manigances, les mêmes trafics qu'on influence. Quel abandon, ma douce France géante. J'ai pas d'amour pour ces gens-là, dites-leur à tous que j'ai dit cela, à ceux qui jurent de marcher droit dans la pénombre de leur foi. Quelle honte.
Alors, Stéphane Hessel, que tout le monde salue maintenant, a écrit « On aboutira seulement en 1966 à la Convention sur les droits économiques et sociaux, puis en 1967 à celle sur les droits civils et politiques. Quant aux mesures de mise en œuvre, elles se borneront à l'existence de deux comités pour le contrôle de l'application des pactes où siègent des experts, avec toujours un Français, ce qui est important, et qui reçoivent les rapports que les États sont censés soumettre aux Nations Unies sur l'application, chez eux, des pactes qu'ils ont ratifiés. Des rapports qui sont vagues, même si les organisations non gouvernementales peuvent y apporter leurs objections. Le comité se borne à dire aux États « On a bien reçu votre rapport, vous avez fait des progrès ». Mais nous constatons que vous continuez à ne pas respecter tel ou tel principe. De toute façon, il n'y a pas de sanction. En 1948, la déclaration a été votée par 48 États sur 56 à l'époque. À l'époque, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'URSS et la Yougoslavie s'étaient abstenus. Le Honduras et le Yémen n'y ont pas pris part, n'ont pas pris part au vote. Tout ça est un peu désespérant, mais, on n'a pas dit notre dernier mot.
L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme. Qui n'est plus la bête de sang, qui n'obéit qu'à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève en rouge à l'horizon. Devant toi, disait le sauvage, devant toi, faisant esclavage. L'insurgé se dresse, le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau, et sa prêle décidée. Salut au splendeur de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, faisant esclavage. La cité se dresse, le fusil chargé. La bourgeoisie écœurante, il ne veut plus payer la rente. Combien de milliards tous les ans? C'est sur vous, c'est sur votre viande qu'on dépaisse un tel dividende. Ouvriers mineurs, paysans, devant toi, misère sauvage. L'insurgé se dresse, le fusil chargé.
comprend notre mère aimante, la planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde pour que de sa mamelle ronde coule un bien-être universel. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
Voilà, on est prêt. Il y a de l'espoir, heureusement. Par exemple, quand la Déclaration universelle a été rédigée, dans les travaux qui ont suivi, on avait prévu des organismes de contrôle, en particulier un tribunal. Alors le tribunal, il a mis du temps à se mettre en place, mais il existe. C'est la Cour internationale de La Haye, la Cour pénale internationale. Elle juge pas tous les matins, elle juge pas énormément de cas, mais il y a eu le procès des dictateurs yougoslaves, il y a eu le procès sur le Rwanda. C'est pas énorme, mais c'est un début. Et puis hier midi plutôt, dans l'émission 3D de Stéphane Paoli, on a discuté beaucoup de ces questions. Et il a été dit dans cette émission que si certains pays pouvaient renoncer à leur droit de veto, c'est-à-dire le droit de veto dans les décisions des Nations Unies, on avancerait à grands pas. Mais le droit de veto, qu'est-ce que c'est? Le droit de veto, ben, c'est une puissance qui fait partie des Nations Unies, dit « je m'oppose à telle décision ». Alors, il y a deux puissances qui s'opposent constamment aux condamnations par les Nations Unies de la politique en Syrie, par exemple. Et ben, c'est la Russie et la Chine. Alors, les invités de Stéphane Paoli étaient très sympathiques, mais je me demande s'ils ne rêvent pas un peu, parce que je n'arrive pas à imaginer Poutine refuser à une once de son pouvoir. Mais, je vous dis qu'il y a de l'espoir. Il y a des organismes qu'on ne peut pas entraver. Ou du moins, personne n'y est encore arrivé. Par exemple, Amnesty International. Alors, Amnesty et Reporters International sont des associations, je dirais, privées, mais... puisqu'elles sont, elles sont financées, elles sont organisées simplement par des cotisations, par des dons de personnes privées, d'organisations publiques aussi, elles ont des subventions, mais au départ, ce sont des organismes privés. Et il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de gouvernant qui ferme la porte à Amnesty International. Amnesty est installé en Syrie. Amnesty est installé en Chine. Amnesty est même installé en Albanie, alors que les frontières de l'Albanie sont réputées infranchissables. Eh bien si, Amnesty y est aussi. Et Amnesty fait un travail extraordinaire, fantastique. Et Amnesty a une cote internationale gigantesque. Personne n'ose s'opposer à Amnesty, personne n'ose leur fermer la porte. Alors tant qu'Amnesty et Reporters International tiendront la route, je pense que l'espoir demeure et que nous serons, la démocratie sera, existera au moins dans les cœurs et dans les espoirs.
vieux à la retraite. On ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite? Même si les femmes vivent plus longtemps, on veut poser nos bagages. Un peu de respect pour notre grand âge. On veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Elle est de retour à la grève. Ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève. On ne votera pas pour toi.
Que disent les classes ouvrières? On en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières? On ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons. Ils finiront en saucisson.
Elle est de retour à la grève. Ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève. On ne votera pas pour toi.
Que disent les jeunes en colère? Nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère? Nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes de banlieue ou des beaux quartiers.
Elle est de retour à la grève. Ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève. On ne votera pas pour toi.
Que disent les gens sans papier? On nous maltraite dans vos églises. Que disent les gens sans papier? Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. On doit pouvoir vivre ensemble. Élever nos gosses dans vos écoles. On doit pouvoir vivre ensemble. Mais nous ne sommes pas nés sur ce sol.
Elle est de retour à la grève. Ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève. On ne votera pas pour toi.
Les forces de l'ordre,
on n'en peut plus, y a trop de manifs.
Que disent les forces de l'ordre?
Nous sommes en manque d'effectifs. Il nous faudrait plus de casques pour pouvoir faire bien notre travail. Il nous faudrait des matraques pour mettre la France sur les rails.
Elle est de retour à la grève. Ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève.
On ne votera pas pour toi.
Contre histoire est terminée pour aujourd'hui et on retrouve bien sûr notre Marseillaise.
Français, ne soyons plus esclaves, sous le drapeau rallions-nous, sous nos pas brillants.